Si le soldat contracte une fois l'habitude de se mêler dans les clubs municipaux, dans les cabales et dans les confédérations, une attraction élective les attirera vers la partie la plus basse et la plus désespérée. Ils transporteront avec eux leurs habitudes, leurs affections et leurs sympathies. Les conspirations militaires auxquelles on doit remédier par les confédérations civiques, les municipalités rebelles qu'on devait rendre obéissantes en leur fournissant les moyens de séduire les armées mêmes dont on comptait se servir pour les remettre à l'ordre. Toutes ces chimères d'une politique monstrueuse et funeste ne feront qu'aggraver les désordres mêmes dans lesquels elles ont pris leur source. Il faudra du sang. Toutes les forces, de quelque nature qu'elles soient, sont si mal disposées. Toutes les autorités civiles et militaires sont tellement dénuées du sens le plus commun qu'elles forceront à en répandre. On pourra venir à bout d'apaiser quelques désordres pour un temps et dans un endroit. Mais ils éclateront dans d'autres parce que le mal est radical et intrinsèque. Tous ces plans, qui ont pour objet de mêler ensemble des soldats rebelles avec des citoyens séditieux, ne peuvent qu'affaiblir de plus en plus les liens de la subordination du soldat vis-à-vis de ses officiers et ajouter à la turbulence des ouvriers et des paysans l'audace mutine du soldat. Pour pouvoir compter sur une véritable armée, il faut que l'officier soit tout aux yeux du soldat, que toute son attention, tout son respect et toute son estime soient concentrés en lui. Les principales vertus des officiers seront dorénavant la douceur et la patience. Il faudra, pour qu'ils puissent conduire leurs troupes, qu'ils emploient tous les artifices des élections et qu'ils se conduisent en candidat plutôt qu'en commandant. Mais comme par de tels moyens, le pouvoir peut occasionnellement être dans leurs mains, l'autorité par laquelle ils doivent être nommés devient d'une haute importance. On ne voit pas ce que vous pouvez faire en définitive, et cela ne sera pas d'une grande importance tant que les rapports étrangers et contradictoires qui existent entre votre armée et toutes les parties de votre république, aussi bien que les rapports embarrassés de ces parties entre elles et de chacune d'elles avec le tout, resteront dans l'état où ils sont. Vous paraissez avoir donné au roi la nomination provisoire des officiers en première instance, sauf l'approbation de l'Assemblée nationale. Les hommes qui ont un intérêt en vue savent fort bien, dans leur poursuite, découvrir où est le vrai siège du pouvoir. Les officiers ne tarderont pas à s'apercevoir que c'est celui à qui appartient une négative indéfinie qui accorde réellement les places. Les officiers seront donc obligés de ne regarder comme une route certaine de promotion que les intrigues qu'ils auront dans l'Assemblée. Cependant, par votre nouvelle constitution, il faut qu'ils portent leur première demande à la Cour. Cette double négociation pour parvenir au grade militaire me semble une invention aussi bien adaptée que si l'on s'était étudié à introduire dans l'Assemblée elle-même une faction relativement à ce vaste patronage militaire. Et pour corrompre ensuite les corps des officiers par des factions d'une nature plus dangereuse encore pour la sûreté du gouvernement, sur quelque base qu'ils puissent être placés, et destructives à la fin de l'action de l'armée elle-même. Ceux des officiers qui perdront, par le refus de l'Assemblée, l'avantage des promotions auxquelles la Cour les destinait, deviendront d'une faction opposée à celle de l'Assemblée, et ils fomenteront le mécontentement dans le cœur de l'armée contre ses pouvoirs régulateurs. D'un autre côté, les officiers qui, ayant réussi par le moyen de l'Assemblée, reconnaîtront qu'ils n'ont à la Cour qu'une obligation secondaire et qu'ils doivent tout à l'Assemblée, mépriseront certainement une autorité qui ne pourra avancer ni retarder leur promotion. Si, pour éviter ces maux, vous n'avez d'autres règles de promotion ou de commandement que celles de l'âge, vous aurez une armée pour la forme. En même temps, elle deviendra plus indépendante et sera davantage celle d'une république militaire. Ce serait le roi qui serait l'instrument et non pas l'armée. Un roi ne peut pas être déposé à moitié. S'il n'est pas du tout dans le commandement de son armée, il n'y est rien du tout. Quel peut être l'effet d'un pouvoir placé de non seulement à la tête de l'armée et qui n'est pour cette armée ni un objet de reconnaissance ni un objet de crainte? Un tel zéro n'est point propre à l'administration d'un objet, de tous le plus délicat, le commandement suprême de l'armée. Elle doit être contenue, et son inclination la porte à ce que sa force exige, par une autorité personnelle, réelle, ferme, effective et décidée. L'autorité même de l'Assemblée souffre en passant par le canal sans force qu'elle a choisi. L'armée ne conservera pas de longs égards pour une Assemblée qui n'agit que par l'organe d'une fausse apparence sous une oppression avide. Elle ne voudra pas accorder sérieusement son obéissance à un prisonnier. Elle finira ou par mépriser un vain appareil ou par avoir pitié d'un roi captif. Ce dilemme deviendra un dilemme sérieux dans votre politique ou je serai bien trompé dans les relations que vous avez établies entre le roi et votre armée. On doit examiner en outre si une assemblée telle que la vôtre, en supposant même qu'elle eût un autre organe pour transmettre ses ordres, est apte à propager l'obéissance et la discipline d'une armée. Il est reconnu que, jusqu'à présent, les armées ont accordé une autorité bien précaire et bien incertaine à tout sénat ou autorité populaire. Et elles y seront bien moins disposées encore à l'égard d'une assemblée qui ne doit durer que 2 ans. Les officiers perdront totalement le caractère qui convient à des militaires s'ils supportent avec une soumission parfaite et s'ils voient avec une admiration convenable la domination des avocats, et surtout s'ils sont obligés de renouveler sans cesse leurs hommages à une succession éternelle de ces avocats dont les vues militaires, à supposer même qu'ils en eussent, devront être aussi incertaines que leur durée est passagère. D'après la faiblesse d'un genre d'autorité, et d'après la fluctuation de toutes, les officiers de l'armée demeureront pendant quelque temps séditieux et très portés aux factions, jusqu'à ce qu'un général populaire, qui connaisse bien l'art de manier l'esprit du soldat, et qui possède le vrai talent du commandement, attire sur lui seul les regards de tous. L'armée lui obéira en faveur de son mérite personnel. Il n'y a pas d'autre manière de s'assurer de l'obéissance militaire dans l'état actuel des choses. Mais au moment où cet événement arrivera, la personne qui commandera votre armée sera réellement votre maître. Le maître, ce n'est pas dire beaucoup, de votre roi, le maître de votre assemblée, le maître de toutes vos républiques. Comment l'assemblée est-elle parvenue à obtenir le pouvoir dont elle jouit actuellement sur l'armée? Principalement, on n'en doute pas, en débauchant les soldats et en les soulevant contre leurs officiers. Elle a commencé par la plus terrible opération. Elle a touché le point central autour duquel se réunissent et reposent les plus petites parties qui composent une armée. Elle a détruit le principe de l'obéissance dans le grand lien essentiel et délicat entre l'officier et le soldat, justement où commence la chaîne de la subordination militaire et dont dépend tout ce système. On dit au soldat qu'il est citoyen, et qu'il jouit des droits de l'homme et du citoyen. Le droit de l'homme, lui dit-on encore, est de se gouverner soi-même, et de ne se laisser donner de loi que par ceux auxquels il a délégué sa propre part dans le gouvernement. Il est très naturel qu'il s'imagine qu'il doit plus qu'aucun autre avoir le droit de faire son choix, lui qui sera obligé de se soumettre à une obéissance plus sévère qu'aucun autre. Par conséquent, il voudra probablement faire par système ce qu'il fait aujourd'hui par circonstance, c'est-à-dire qu'il voudra exercer au moins une négative dans le choix de ses officiers. Quant à présent, on sait que les officiers ne sont que tolérés, et cela à cause de leur bonne conduite. Dans le fait, il y a déjà eu beaucoup d'occasions où ils ont été rejetés par leur corps. Ceci est donc une seconde négative sur le choix du roi. Une négative aussi effective, au moins, que celle qu'exercera l'Assemblée. Les soldats savent déjà que l'on n'a pas trop mal accueilli dans l'Assemblée la question qui y a été posée, de savoir si les soldats ne devraient pas avoir directement le choix de leurs officiers, ou au moins d'un certain nombre d'entre eux. Quand on met en délibération de pareille matière, il n'y a aucune extravagance à supposer que les soldats pencheront pour l'opinion qui sera la plus favorable à leurs prétentions. Ils ne supporteront pas qu'on puisse les croire l'armée d'un roi prisonnier, tandis qu'il existe dans le même royaume une autre armée, avec laquelle aussi ils ont à se livrer à des fêtes et à des confédérations, et regarder comme l'armée libre d'une constitution libre. Ils jetteront les yeux sur cette autre armée plus permanente, je veux dire sur l'armée municipale. Ils savent que ce corps élit actuellement ses propres officiers. Ils peuvent ne pas être capables de discerner pour quel motif ils ne pourraient pas élire un marquis de Lafayette comme un des leurs. Si cette élection d'un commandant en chef fait partie des droits de l'homme, pourquoi cela ne ferait-il pas partie des leurs? Ils voient des juges de paix électifs, des juges électifs, des curés électifs, des évêques électifs, des municipalités électives et des commandants de l'armée de Paris électifs. Pourquoi seraient-ils les seuls exclus? Les braves troupes de la France seraient-elles les seules âmes dans cette nation qui ne fussent pas les juges compétents du mérite militaire et des talents nécessaires pour les commander en chef? Sont-ils payés par l'État pour perdre par cette raison les droits de l'homme? Ils sont eux-mêmes une partie de la nation et ils contribuent à cette paix. Et le roi lui-même, et l'Assemblée nationale elle-même, et tous ceux qui élisent l'Assemblée nationale, ne sont-ils pas payés aussi? Au lieu de voir que toutes ces personnes soient déchues de leurs droits parce qu'elles reçoivent un salaire, ils voient au contraire que dans tous ces cas, un salaire leur est donné pour exercer leurs droits. Toutes vos résolutions, toutes vos manœuvres, tous vos débats, tous les ouvrages de vos docteurs en religion et en politique ont été placés avec adresse entre leurs mains. Et vous vous attendez qu'ils s'appliqueront à eux-mêmes tout juste telle part de vos doctrines et de vos exemples que cela vous plaira? Tout dépend de l'armée dans un gouvernement tel que le vôtre, car vous avez habilement détruit toutes les opinions, tous les préjugés, et autant que vous l'avez pu, tous les instincts mêmes qui sont le soutien des gouvernements. C'est pourquoi, au premier moment où il s'élèvera quelque différend entre l'Assemblée nationale et quelques parties de la nation, vous serez obligé d'avoir recours à la force. On ne vous a rien laissé de plus, ou plutôt, vous ne vous êtes rien laissé de plus à vous-même. Vous voyez, par le rapport de votre ministre de la guerre, que la distribution de l'armée est faite, en grande partie, dans la vue d'une répression intérieure. Vous êtes forcé de gouverner par une armée, et vous avez infusé dans cette armée, par laquelle vous gouvernez, aussi bien que dans tout le corps de la nation, des principes qui, en peu de temps, vous priveront du pouvoir d'en faire l'usage auquel vous l'aviez destiné. Le roi doit appeler les troupes à marcher contre le peuple lorsque l'univers entier a entendu, et ces mots sonnent encore à nos oreilles, que les troupes ne devaient pas faire feu sur leurs concitoyens. Les colonies se donnent une constitution indépendante et un commerce libre. Elles doivent être soumises par les troupes. Dans quel chapitre de votre Code des droits de l'homme pourront-elles lire que c'est une partie de ces droits de l'homme d'avoir leur commerce soumis au monopole et à beaucoup d'entraves pour le seul profit des autres? De même que les créoles s'élèvent contre vous, les nègres s'élèvent contre eux. Encore des troupes, encore des massacres, des tortures, des potences. Ce sont vos droits de l'homme. Ce sont les fruits de ces déclarations métaphysiques faites imprudemment et honteusement rétractées. Il n'y a que peu de jours, des fermiers, dans un de vos carrés ou départements, refusèrent de payer quelques espèces de rente aux seigneurs de la terre. En conséquence, vous avez décrété que tous les habitants des campagnes continueraient à payer rentes et redevances, excepté ce que vous aviez aboli comme onéreux. Et s'ils refusent, alors vous ordonnerez au roi de faire marcher des troupes contre eux. Vous établissez des propositions métaphysiques qui font tirer des conséquences générales, et ensuite vous vous efforcez de limiter la logique par le despotisme. Les chefs du présent système font connaître à tous les individus les droits qu'ils ont, comme hommes, de prendre des forteresses, de massacrer des gardes, de s'emparer de la personne des rois, sans la moindre apparence d'autorisation, même de l'Assemblée, quoique, comme corps législatif souverain, elle siégeât au nom de la nation. Et cependant, ces chefs prétendraient ordonner à ces troupes qui ont figuré dans ces désordres de s'opposer à ceux qui jugeront d'après ces principes et qui suivent les exemples qu'ils ont consacrés par leurs principes. Ces chefs enseignent au peuple à avoir en horreur et à rejeter toute féodalité comme la barbarie de la tyrannie, et ils veulent déterminer ensuite la portion de cette tyrannie barbare qu'il faut qu'ils supportent avec patience. Autant ils sont prodigues de lumière à l'égard des abus, autant ils sont avares sur les moyens de les réparer. Le peuple sait non seulement que certains sens et certaines redevances personnelles que vous lui avez permis de racheter, sans cependant lui fournir de l'argent pour ce rachat, sont très peu importants en comparaison des autres charges sur lesquelles vous n'avez pris aucune mesure. Il sait que presque toutes les propriétés foncières tenaient dans leur origine au système féodal, que c'est le résultat de la distribution des possessions des propriétaires originaires faite par un conquérant barbare à ses instruments barbares. Et il sent très bien que les effets les plus nuisibles de la conquête sont les rentes de toute espèce imposées sur les terres, comme en effet cela est sans aucun doute. Les paysans, selon toute probabilité, sont les descendants de ces anciens propriétaires romains ou gaulois. Mais s'ils ne peuvent pas bien établir la ligne de leur descendance, à la manière des antiquaires et des jurisconsultes, ils se retirent dans la citadelle des droits de l'homme. Là, ils trouvent que les hommes sont égaux et que la terre, cette bonne et égale mère de tous, ne doit pas être foulée pour nourrir le luxe et l'orgueil de quelques hommes qui, par la nature, ne sont pas meilleurs qu'eux et qui, s'ils ne travaillent pas pour gagner leur pain, sont pires. Ils trouvent que, par les lois de la nature, celui qui occupe ou celui qui s'est emparé du sol en est le vrai propriétaire, qu'il n'y a pas de prescription contre la nature, et que les arrangements, lorsqu'il y en a d'existants, qui ont été passés avec leur seigneur pendant le temps de l'esclavage, ne sont que l'effet de la cruauté et de la force, et que lorsque le peuple rentra dans les droits de l'homme, tous ces traités devinrent aussi nuls que tout le reste de ce qui avait été fait sous le règne de l'ancienne tyrannie féodale et aristocratique. Ils vous diront qu'ils ne voient pas de différence entre un fainéant à chapeau à cocarde nationale et un fainéant en capuchon ou en rochet. Si vous fondez le titre de vos revenus sur l'héritage et sur la prescription, d'après le discours de M. Camus, publié par l'Assemblée nationale pour son instruction, que les choses qui ont mal commencé ne peuvent se prévaloir de la prescription, que le titre de ces seigneurs était vicieux dans son origine, et que la force est au moins aussi mauvaise que la fraude. Quant au titre par héritage, ils vous diront que la succession de ceux qui ont cultivé la terre est la vraie généalogie de la propriété et non des parchemins pourris et de sottes substitutions. Que les seigneurs n'ont joui que trop longtemps de leurs usurpations, et que si on leur accorde quelques pensions par charité, comme à des moines laïcs, ils devraient être bien reconnaissants de la bonté des vrais propriétaires qui se conduisent si généreusement envers ces faux prétendants à leur propriété. Lorsque les paysans vous paieront avec cette monnaie sophistique frappée à votre coin, vous la décrirez comme étant de mauvais aloi, et vous leur direz qu'à l'avenir, vous les paierez avec des gardes françaises, des dragons et des hussards. Vous mettrez en avant, pour les ramener à la raison, cette autorité de la seconde main, de ce roi qui n'est qu'un instrument de destruction, sans aucun pouvoir pour protéger le peuple, ni sa propre personne. Vous vous flattez que, de par le roi, vous les forcerez à l'obéissance, mais ils vous répondront « Vous nous avez appris qu'il n'y a point ici de gentilshommes. Et quel est celui de vos principes qui nous apprenne à nous prosterner devant des rois que nous n'avons pas élus ?» Nous savons, sans avoir besoin de vos leçons, que les terres avaient été concédées pour le soutien des dignités, des titres et des emplois féodaux. Lorsque vous anéantissez la cause comme un grief, pourquoi l'effet qui nous grève le plus subsisterait-il? Puisqu'il n'y a plus aujourd'hui ni honneur héréditaire, ni famille distinguée, pourquoi serions-nous condamnés à maintenir des choses que vous avez condamnées à ne plus exister? Vous avez dégradé nos anciens seigneurs aristocrates pour nous les renvoyer ensuite avec le seul titre de maltôtier autorisé par vous. Avez-vous fait quelques efforts pour nous rendre respectables les collecteurs des revenus? Non, vous nous les avez envoyés avec leurs armes renversées, leurs boucliers brisés, leurs devises effacées. Et ces êtres à deux pieds sans plumes étaient tellement dégradés et métamorphosés que nous ne pouvions plus les reconnaître. Ils nous sont étrangers. Ils ne portent même plus les noms de nos anciens seigneurs. Physiquement, ils peuvent être les mêmes hommes, quoique nous n'en soyons pas tout à fait assurés, d'après vos nouvelles doctrines philosophiques sur l'identité personnelle. Sous tous les autres rapports, ils sont totalement changés. Nous ne voyons pas pourquoi nous n'aurions pas autant de droits de leur refuser leurs revenus que vous en avez pour abroger tous leurs titres et toutes leurs distinctions honorifiques. Nous ne vous en avions nullement chargé. Et cet exemple de l'usurpation d'un pouvoir qui ne vous avait point été délégué est un des mille que l'on pourrait vous citer. Nous voyons les bourgeois de Paris, à l'aide de leurs clubs, de leurs attroupements et de leurs gardes nationales, vous conduire à leur gré et vous dicter les lois que vous nous dictez à votre tour. Par votre entremise, ces messieurs disposent de la vie et de la fortune du reste des Français. Pourquoi ne feriez-vous pas autant d'attention aux désirs des laborieux cultivateurs, en ce qui concerne nos redevances, objets qui nous touchent de la manière la plus sérieuse, que vous en faites aux demandes de ces bourgeois insolents par rapport aux distinctions et aux titres honorifiques qui ne les intéressent pas plus que nous? Mais nous trouvons que vous avez plus d'égard pour leur fantaisie que pour nos besoins. Les droits de l'homme comprennent-ils l'obligation de payer tribut à ses égaux? Avant que vous nous eussiez fait connaître cette disposition, nous aurions pu croire qu'il ne régnait pas entre tous les hommes une égalité parfaite. Nous aurions pu continuer à entretenir en leur faveur nos vieux préjugés habituels et insignifiants. Mais la loi que vous avez faite ne nous présente aucun autre objet que le but de détruire toute espèce de respect à leur égard. Ne nous auriez-vous donc défendu de leur continuer nos vieilles formules respectueuses que pour nous envoyer ensuite des troupes et que pour nous soumettre à coups de sabre et de baïonnette aux joues de la crainte et de la force, après nous avoir défendu de céder à la douce autorité de l'opinion? Le ridicule et la grossièreté de tous ces raisonnements sont frappants pour tous les bons esprits, mais ils doivent paraître très concluants et très solides à ces métaphysiciens politiques qui ont ouvert des écoles de sophisme et qui n'ont travaillé que pour favoriser l'anarchie. Il est évident que la seule considération du droit n'aurait pas empêché les chefs de l'Assemblée de supprimer toutes les rentes en même temps qu'ils abolissaient les titres et les armoiries. Ils n'auraient fait en cela que se conduire d'après leur raisonnement et compléter l'analogie de leurs opérations. Mais ils venaient de s'emparer d'une grande masse de propriétés territoriales par la voie de la confiscation. C'était une marchandise dont il fallait se défaire, et ils auraient perdu tout l'avantage de la vente s'ils avaient permis aux cultivateurs de petites débauches de spéculation dans le genre de celles auxquelles ils venaient de s'abandonner eux-mêmes jusqu'à l'ivresse. Les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, n'ont plus d'autre sûreté que les intérêts relatifs de leur rapacité. Leur bon plaisir arbitraire, enfin, est la seule règle qui détermine quelles sont les propriétés qu'il faut protéger, quelles sont celles qu'il faut bouleverser. Ils n'ont pas mieux pourvu aux principes qui pourraient soumettre toute leur municipalité à l'obéissance, ou même leur faire un devoir de ne point se séparer du tout pour se joindre à quelque autre puissance. Je crois avoir entendu dire que la ville de Lyon avait dernièrement refusé de payer les impôts. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Quelle autorité légale existe encore pour l'y contraindre? Quelques-uns de ces impôts ont été mis par le roi. Les plus anciens l'avaient été par les États généraux, organisés en trois ordres. On peut dire à l'Assemblée: qui êtes-vous, vous qui n'êtes pas nos rois, ni les États généraux que nous avons élus? Vous, enfin, qui ne siégez pas d'après les principes par lesquels nous vous avions élus. Et que sommes-nous, nous qui voyons que l'on a supprimé la gabelle, quoique vous eussiez ordonné le paiement de ces droits? Nous qui voyons la désobéissance ratifiée par vous-même, que sommes-nous? Pourquoi ne serions-nous pas juges de ce que nous devons ou ne devons pas payer? Pourquoi ne nous aiderions-nous pas des mêmes pouvoirs dont vous avez reconnu la validité? À cela, l'on répond: nous enverrons des troupes contre vous. L'ultima ratio regum, c'est-à-dire le canon, la dernière raison des rois, est toujours la première raison pour votre assemblée. Elle pourra faire usage de cette force militaire tant que l'impression de l'augmentation de la paix fera encore son effet sur elle, et autant que pourra durer la petite vanité de paraître l'arbitre de toutes les querelles. Mais cette arme peu sûre crèvera bientôt dans la main qui s'en sert. Comment se fait-il que l'Assemblée, lorsqu'elle tient et soutient partout des écoles, ou par système, ou avec une persévérance infatigable, l'on enseigne tous les principes et l'on forme toutes sortes de projets pour la destruction de l'esprit de subordination, ou civil ou militaire? Comment se fait-il, dis-je, qu'elle puisse se flatter de maintenir dans l'obéissance un peuple anarchique par le secours d'une armée anarchique. L'armée municipale, qui, suivant leur nouvelle politique, doit contrebalancer l'armée nationale, considérée en elle-même, est d'une constitution beaucoup plus simple et, à tous égards, moins susceptible de reproches. C'est un corps purement démocratique qui n'a aucune relation avec le pouvoir du roi. Un corps armé, discipliné et commandé à la fantaisie des districts auxquels le corps appartient en particulier. Et la direction du service personnel ou des amendes qu'il faut payer quand on se fait remplacer est confiée à la même autorité. Rien n'est plus uniforme. Si cependant vous considérez ces établissements sous leur rapport avec la couronne, avec l'Assemblée nationale, avec les tribunaux publics ou avec l'autre armée, ou bien si vous les considérez sous le rapport de la liaison qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, rien ne vous paraîtra plus monstrueux. Et il est impossible que tous les mouvements embarrassés de cette machine ne se terminent pas par quelque grande calamité nationale. Ce moyen préservatif d'une constitution générale est plus mauvais que le cistacis de la Crète, ou la Confédération de Pologne, ou que tous les autres mauvais correctifs qui ont été imaginés dans les révolutions produites par les vices de construction des gouvernements.